C'est aussi un autre aspect de la justice divine. Mais nous parlons ici de la doctrine des souffrances. Nous ne parlons pas de la doctrine de la rétribution ou de la justice universelle, qui est tout à fait vraie, mais qui ne nous concerne pas ici aujourd'hui. Bien sûr que le méchant doit être puni, c'est une évidence. Mais moi, je dois comprendre que le méchant, qui par ailleurs doit être puni, n'est qu'une cause seconde du Dieu qui veut quelque chose pour moi, pour l'expiation de mes péchés, pour la préservation, pour me préserver d'autres péchés et pour purifier mon cœur par la charité. Alors, Saint Paul ne dit pas simplement ça. Il dit, car la création attend avec impatience la manifestation des fils de Dieu, assujettie qu'elle est à la vanité, non pas volontairement, mais à cause de celui qui l'y a soumise, en lui laissant l'espérance, car la création elle-même sera délivrée de l'esclavage de la corruption pour participer à la liberté et à la gloire des enfants de Dieu. Nous savons en effet que la création tout entière est encore jusqu'à maintenant dans les douleurs, dans les gémissements et les douleurs de l'enfantement, et non seulement elle, mais nous aussi. C'est un passage difficile, mes très chers frères. C'est un passage difficile parce qu'il relève à la fois de la cosmologie chrétienne et de la science des saints, la science de la piété. C'est un passage difficile qui exige commentaire. Alors, nous allons être très brefs, avec l'aide du Saint-Esprit, nous allons être très brefs. Mais néanmoins, il y a des choses à dire là-dessus. Et puis, il faut bien les dire à un moment ou à un autre, je pense que le dimanche se prête aussi à ces enseignements. Nous sommes à la fin du monde, soyez patients, mes très chers frères, votre chemin vers le ciel n'en sera que facilité. C'est un passage donc difficile. Premièrement, pour essayer de le comprendre, et parce qu'il parle de la création qui a été soumise, alors c'est moins difficile pour nous à comprendre, parce que nous savons qu'il parle de la création qui a été mise disons, qui a été précipitée dans la chute à cause dans la déchéance, à cause de la chute d'Adam. Mais ce n'est pas que la création elle-même a chuté volontairement à cause de son péché, mais comme Adam a été le roi des créatures, le dieu du monde, le dieu de la création, comme disent les auteurs, en chutant, il a entraîné la création avec lui, parce que la création n'a été créée que pour Adam. Le monde entier, l'univers tout entier, la terre tout entière, les cieux et la terre, n'existent que pour l'homme. Ça, c'est une vérité dogmatique. Donc, n'existant que pour l'homme, évidemment, l'homme les a entraînés. C'est un petit peu comme quelqu'un qui porte un habit, l'habit n'existe que pour vêtir l'homme. L'homme tombe par terre dans la boue, eh bien l'habit est trempé de boue. Ce n'est pas l'habit qui est méchant ou qui. C'est l'homme, étant fait pour l'homme, il a connu le sort de l'homme. Le sort de l'homme était de tomber dans la boue. Donc, tout d'abord, il nous faut prendre conscience de quelque chose sur l'homme. Parce que c'est l'homme qui a été à l'origine de l'assujettissement de la création à la vanité. Il faut commencer par. Il faut commencer, pour comprendre ce que nous avons à dire, il faut commencer par gémir de l'exil où nous nous trouvons. C'est-à-dire qu'avant de comprendre comment la création est tombée à la suite de l'homme, il faut comprendre que l'homme est tombé. Vous voyez, malheureusement, il y a toutes sortes de doctrines qui vous disent que finalement, lorsque l'homme est tombé, il n'est redevenu jamais que ce qu'il était purement naturellement, il a perdu une petite casquette de dons surnaturels, mais enfin bon, après tout, ces dons surnaturels étaient surnaturels, donc du coup, il ne reste plus que la nature. Non, 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 c'est faux. C'est totalement faux. C'est totalement faux, et cette doctrine est une doctrine du diable. L'homme était fait pour Dieu, et il était bien sûr doté de dons surnaturels, des dons surajoutés, qui dotaient sa nature, mais sa nature innocente. En perdant l'innocence à cause de son péché, l'homme a mutilé sa nature. C'est-à-dire que non seulement il a perdu les dons surajoutés, c'est la moindre des choses, malheureusement, c'est que justice, mais comme ces dons surajoutés avaient été donnés à une nature en état d'innocence, cette nature est tombée dans un état de culpabilité. Et cet état de culpabilité n'est pas simplement moral ou figuratif, etc. C'est un état, Bossuet dit, que l'homme, en chutant, non seulement est tombé en dessous de lui-même, mais il est tombé, et il dit, il est tombé comme une cascade qui tombe sur une pierre, c'est-à-dire qu'il est tombé et qu'il s'est éparpillé, il est tombé dans la multiplicité, et c'est pour cela que les passions prévalent, c'est pour cela que le corps dompte l'âme et triomphe d'elle dès le moment où nous existons, et c'est pour cela que le baptême a été donné pour mettre un terme par la mort et la résurrection à cet état terrible de fait. L'homme n'est pas simplement dans un état, finalement, somme toute, naturel. L'homme est dans un état, si on pourrait dire, contraire à la nature, sinon contre nature, mais du moins contraire à la nature telle que Dieu l'a créée dans l'innocence. L'état naturel de la nature, c'est l'état d'innocence. Nous sommes dans un état de déchéance. Nous ne sommes donc plus dans un état naturel, nous sommes dans un état de déchéance. Et c'est pour cela qu'il nous faut gémir, mes très chers frères, pas simplement le contempler d'un point de vue théorique et même théologique, il nous faut gémir de l'exil où nous sommes. Comment gémir, pratiquement? On ne va pas passer son temps à pousser des gémissements. Quoique, non, mais ce n'est pas tout à fait ça. Il nous faut gémir pratiquement, c'est-à-dire il nous faut comprendre que tout attachement à ce monde est une violence que nous faisons à la création de Dieu. C'est-à-dire que c'est à cause de nous que le monde a déchu, que les éléments du monde ont déchu, la création a déchu, et nous devons comprendre que nous perpétuons cette chute ou cette violence que l'homme, notre premier père, a faite à la nature en usant mal de la création. Alors évidemment, vous allez dire, ah, mais vous parlez comme un bio, etc. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Non, non, c'est pas bien du tout, je ne parle pas du tout comme un bio. Là, les bio, etc., les altères, choses, je ne sais pas trop quoi, disent l'homme est un cancer. L'homme n'est pas le cancer de la création, l'homme est le roi, l'homme est le dieu de la création. Toutes choses sont faites pour adorer l'homme et pour lui servir dans l'état d'innocence. Vous voyez ? Donc, on est très loin des discours athées et sacrilèges des décroissants et autres bio. Non, nous disons simplement que, nonobstant, il y a quelque chose de vrai dans un discours qui accuserait l'homme de quelque chose, nous le faisons en premier depuis longtemps, c'est que l'homme est la raison pour laquelle la création gémit, et parce qu'elle a été soumise à la vanité. Et cette raison, précisément aujourd'hui, donc c'est la chute, mais précisément aujourd'hui, c'est le fait que nous faisons violence à la création lorsque nous l'utilisons mal. Et c'est pour ça que le texte de saint Paul est assez difficile à comprendre, mais quand on l'a compris, en fait, il s'éclaire. Dieu a tout créé pour lui-même. Dieu a donc, toutes choses sont créées pour Dieu, sachant que le monde est créé pour Dieu médiatement. C'est-à-dire que Dieu a créé le monde, il a donné le monde à l'homme, et l'homme a été créé pour Dieu, de telle sorte que le monde est créé pour Dieu via l'homme. Il a ordonné le monde à l'homme pour servir de degré, de marche-pied, d'escalier, si vous voulez, d'échelle, pour que l'homme aille vers lui. User du monde pour lui-même, c'est-à-dire selon les désirs de la concupiscence, c'est faire violence à la raison même, la raison d'être même des choses. Vous voyez, c'est un peu philosophique, si vous voulez, mais je pense que vous pouvez suivre. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de mettre du béton partout, de faire des cultures, etc., qui font qu'après qu'il y a des terres ravinées, etc. Ça, c'est, si on peut dire, c'est une manifestation grossière et assez terminale, si l'on peut dire, de la méchanceté de l'homme, d'une certaine manière. Encore qu'il faille faire une différence entre l'exploitation de la nature par l'homme, qui est tout à fait normale, est nécessaire et bonne, et après, évidemment, le mauvais comportement de l'homme par rapport à son devoir d'État, non pas tellement à la création, mais à son devoir d'État. Un roi qui se comporte en tyran n'est pas digne, ne se comporte pas d'une façon digne de la royauté dont il est investi. L'homme, en faisant n'importe quoi avec la création, n'est pas digne de l'humanité dont il est, de la vicarialité de Dieu dont il est investi. Donc ça, c'est autre chose. Maintenant, il se trouve donc que, vous comprenez, c'est faire violence à la nature, à la raison même d'être des choses, que d'en user contrairement à leur but qui est de contribuer à la gloire de Dieu. Donc, maintenant que nous avons compris ceci par rapport à l'homme qui est en amont de tout parce que c'est lui qui a fait chuter le monde, il est écrit « Car la création attend avec impatience la manifestation des fils de Dieu, assujettie qu'elle est à la vanité, non pas volontairement. » Elle attend avec impatience. Quelle est cette impatience? Eh bien, nous allons comprendre, d'après ce que nous disent les commentateurs. La création désire, selon son mode propre, être affranchie du mauvais usage qu'en fait la concupiscence de l'homme. Non pas pour jouir d'elle-même, mais la création, hein, comme si la création voulait jouir d'elle-même, indépendamment de l'homme, c'est pour ça qu'il ne faut, il faut jamais dire c'est la création qui se révolte, c'est la nature qui se révolte contre l'homme, etc., les tempêtes, contre les machins. Non, non, c'est pas, non, non. Il y a quelque chose de vrai, mais ce n'est pas, elle ne se révolte pas comme si c'était une déesse plus ou moins domptée par une sorte de microbe tout puissant qu'était l'homme, on est là complètement dans la folie. Il y a une sorte d'indignation de la création par rapport à l'homme, non pas parce que l'homme l'exploite ou l'utilise, parce qu'elle est faite pour ça, mais parce qu'il le fait selon les catégories de sa concupiscence. Donc, c'est avec impatience que la création aspire à être affranchie du mauvais usage qu'en fait la concupiscence de l'homme. Encore une fois, je vous le répète, non pour jouir d'elle-même, mais pour correspondre à sa raison d'être, qui est Dieu. Le péché entrant dans le monde y a causé un terrible bouleversement. Les créatures de Dieu sont devenues aux hommes, nous dit la sagesse, le livre de la sagesse, les créatures en quoi consiste ce bouleversement, cet horrible bouleversement? Écoutez ce que dit la sagesse. Les créatures de Dieu sont devenues aux hommes un objet d'abomination, un sujet de tentation, un filet où les pieds des insensés sont pris. Tout ce qui est de l'ordre de la création, mes très chers frères, est pour nous depuis la chute un filet pour nos pieds, un piège, un poison. Vous allez dire, mais pourtant les bonnes choses, oui bien sûr, les serpents, les mauvaises choses, oui mais les serpents et aussi les autres choses. Tout est devenu. Alors vous allez dire tout, mais quoi? Ça veut dire quoi tout? Les pierres, oui, je vais vous dire tout, je vais citer, non pas moi mais notre Seigneur Jésus-Christ, certains éléments de la création qui peuvent être un piège. Votre père, votre mère, votre femme, vos enfants, vos terres, vos biens, votre propre âme. Après, tout le reste, les oiseaux, la création, les belles choses, les beaux paysages, les animaux qui sont laids ou qui sont beaux, tout, les bonnes choses, le bon goût qu'ont les aliments, l'aspect agréable qu'ont les choses, tout. Alors vous allez dire, mais qu'est-ce que vous êtes une sorte de gnostique qui dit que le diable a créé le monde. Mais écoutez un petit peu, mes très chers frères, c'est complètement ridicule de parler comme ça. Nous disons que ce n'est pas moi qui le dis, c'est la sagesse, le livre de la sagesse, le péché. Les créatures de Dieu sont devenues aux hommes un objet d'abomination, un sujet de tentation, un filet où les pieds des insensés sont pris. Nous vivons dans une sorte de vaste illusion où toutes les choses de la création sont dans la tristesse et l'impatience de la délivrance parce qu'elles sont en quelque sorte soumises, malgré leur volonté, si tant est qu'elles aient, enfin, mettons qu'elles aient une volonté, elles sont soumises à ce rôle de piège. Pourquoi? À cause de la concupiscence. C'est un petit peu, je vais vous donner un exemple pour vous faire comprendre, c'est un petit peu comme vous êtes un père, une mère, vous avez vos petits-enfants qui ont trouvé une paire de lunettes colorées. Une paire de lunettes colorées. Et alors, ils mettent les paires de lunettes, des lunettes roses, par exemple, totalement ridicule. Des lunettes roses. Alors, ils disent, ah, regarde, le ciel est rose, les nuages sont roses, etc. Et alors, ils se tournent vers papa et maman, ils disent, ah, papa et maman sont roses. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dire, ah ben oui, voilà, ils sont roses, parce que vous allez expliquer les lois de l'optique, ou vous allez dire, bon, arrête de te payer la tête de ton père et de ta mère, et tu enlèves ces lunettes maintenant, parce que quoi? Parce que vous souffrez, dans votre honneur de parent, d'être regardé par un filtre qui vous ridiculise. Vous n'êtes pas rose, vous avez la couleur que vous avez, hein, et vous êtes blanc, vous avez la couleur que vous avez, mais le fait d'être vu d'une façon qui est dénaturante et d'une façon qui finalement vous fait passer pour grotesque alors que vous ne l'êtes pas, vous donne le désir, et vous allez le faire, je l'espère, de faire cesser cette situation. Donc mutatis mutandis, évidemment, la création n'est pas mauvaise en elle-même, mais elle est devenue mauvaise à cause de la concupiscence que l'homme porte vers elle. Et comme dit saint Paul, elle en souffre. Voilà pourquoi ce passage est difficile à comprendre, mais une fois qu'on a compris, il est très simple à comprendre. Elle en souffre. Elle souffre d'être appréhendée constamment avec la concupiscence. Lorsque vous mangez un bon pain, lorsque vous mangez une bonne viande, lorsque vous mangez un bon fromage, et que vous vous délectez de cela, et que le souvenir de Dieu, et que vous buvez un bon vin, vous pouvez le faire, mais que le souvenir de Dieu s'efface de votre esprit, le vin, le fromage, le pain souffrent. Vous allez dire, il n'est pas un peu en train de délirer, mais alors si c'est moi qui délire, mes très chers frères, c'est saint Paul aussi qui délire, je ne fais que commenter saint Paul. Elle souffre, le fromage, le pain, le vin, le beau spectacle, l'oiseau magnifique, le chien fidèle et amical souffrent au fond d'eux-mêmes du fait d'être aimés pour eux-mêmes indépendamment de Dieu. Ils souffrent de ne pas être un relais par la reconnaissance vers Dieu. Voilà comment saint Paul nous enseigne clairement que la création souffre, soupire, gémit, elle attend avec impatience. Un petit peu comme le père ou la mère qui sont ridiculisés par les lunettes roses du petit enfant, attendent avec impatience que l'enfant redevienne dans son bon sens et obéisse, enlève ses lunettes et retrouve une droite vision de son papa et de sa maman, qui ne sont pas ridiculement roses, mais qui sont ce qu'ils sont, ces lunettes opèrent une déformation de la réalité. Eh bien, la création souffre, mes très chers frères, comme je l'ai dit, le bon vin, le bon fromage, le bon pain, etc., souffrent dans leur nature. N'essayez pas de comprendre comment, saint Paul nous le dit, c'est suffisant. Ils souffrent dans leur nature d'être utilisés contrairement à leur nature, parce que leur nature est de provoquer en nous l'action de grâce, elle est de provoquer en nous la reconnaissance. Vous voyez, mes très chers frères, c'est ainsi que saint Paul nous dit que la création souffre à cause de la concupiscence de l'homme. Les créations, les créatures sont devenues donc des instruments du péché. Et c'est pour cela que les auteurs nous disent que nous devons regarder les créatures, nous qui... C'est pas aussi simple que ça. Le petit enfant, quand il a enlevé ses lunettes, il oublie complètement qu'il regardait ses parents avec un air moqueur. Mais nous, comment enlever la concupiscence? La concupiscence est là, c'est une blessure que nous avons. On peut enlever une excroissance qui croît sur notre peau, mais on ne peut pas enlever une plaie. Une plaie, c'est une absence, c'est un trou que nous avons dans notre chair. La concupiscence, c'est cette espèce de blessure qui est là, et qui doit provoquer en nous, plutôt nous devons utiliser... avoir la bonne attitude par rapport à cette blessure. Nous devons regarder, nous disent les auteurs, nous devons regarder toutes les créatures comme étant empoisonnées, comme étant des présents qui nous sont donnés par notre ennemi pour notre perte. C'est pourquoi nous ne devons... Alors vous allez dire, mais alors vous allez dire quoi? On vit dans la stratosphère. Écoutez, laissez-moi terminer, mes très chers frères. Nous devons regarder toutes les créatures comme étant empoisonnées, comme étant des présents qui nous sont donnés par notre ennemi pour notre perte. C'est pourquoi... nous ne devons en user que par la nécessité et avec bien des précautions. Usant comme n'usant pas, nous sommes encore en vie. Donc il nous faut bien user des choses, il nous faut bien aimer nos parents, notre femme, nos enfants, etc., selon notre état. Il nous faut user des choses qui sont nécessaires selon notre état. Bien entendu, qui a jamais dit le contraire? Mais il faut en user par la nécessité et avec bien des précautions. Vous voyez? Par la nécessité, c'est-à-dire... enlever tout ce qui ne relève pas du christianisme et même tout ce qui ne relève pas de votre état. Vous voyez, vous avez une bibliothèque digne d'un séminaire chez vous et vous n'êtes pas clair. Eh bien, offrez-la à des clercs, offrez-la à un séminaire, offrez-la. Débarrassez-vous de ces choses-là. Gardez simplement, prenez conseil et gardez simplement les choses qui seront nécessaires pour vous. Vous voyez, c'est un exemple comme un autre. Je dirais, par exemple, si vous voulez que tout le monde en ait aussi pour son grade, si vous avez, je ne sais pas moi, un cabinet de chirurgie, etc., que vous êtes prêtre, eh bien donnez-le à un chirurgien qui a besoin d'être doté. Ne le faites pas vous. Vous n'avez pas le droit de pratiquer des métiers qui versent le sang. Vous voyez? Donc, enlevons tout le superflu, enlevons même, parmi les choses licites, ce qui ne correspond pas à notre état. Et ce dont nous pouvons user, par la nécessité, usons-en avec précaution, mes très chers frères. Toujours avec précaution. Alors vous allez dire, mais qu'est-ce que c'est? Vous allez faire de nous des scrupuleux, vous êtes un malade. Avec précaution, qu'est-ce que ça veut dire? Avec reconnaissance, avec une certitude, avec une conscience que je fais souffrir la création si je l'utilise mal, mais pourquoi s'ouvre-t-elle? Parce que je ne fais pas ce pour quoi elle est faite. Ayons du pain, du fromage, du vin, etc., mes très chers frères, pour reprendre l'exemple que nous avons donné, mais usons-en avec précaution, en nous prémunissant contre l'avarice, c'est-à-dire qui nous empêche de donner à nos frères, en nous prémunissant contre la sensualité, qui nous fait nous délecter de ces choses qui sont finalement temporelles et passagères. Usons de tout avec selon la nécessité et avec précaution. Et c'est là où la création et l'homme peuvent se réconcilier, et vont se réconcilier, et sont déjà réconciliés dans le Christ, parce qu'il dit, saint Paul dit, nous savons, c'est notre troisième partie, nous savons en effet que la création tout entière est encore jusqu'à maintenant dans les gémissements et les douleurs de l'enfantement. Et non seulement elle, mais nous-mêmes aussi, qui possédons les prémices de l'Esprit, nous gémissons en nous-mêmes dans l'attente de l'adoption des enfants de Dieu, qui sera la rédemption de nos corps en Jésus-Christ. La création tout entière. Mes très chers frères, nous pourrions dire bien des choses sur ce thème, mais il y a chez certains auteurs l'idée d'une indignation secrète de la création contre les abus que l'homme lui fait subir par la concupiscence. Si donc les choses inanimées soupirent après leur délivrance, à combien plus forte raison doivent les chrétiens soupirer aussi après leur propre délivrance? Et c'est là où le passage que nous avons lu dans l'offertoire au début de ce sermon, va nous intéresser. Illuminé, illumina oculos meos, illuminez mes yeux, de peur que je ne m'endorme dans la mort, de peur que mon ennemi ne dise je l'ai vaincu. Mon Dieu, que je vois les choses telles que Dieu les voit, et que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. Quel est le sommeil de la mort? Neunquam ordormiam in morte, que je ne m'endorme pas dans la mort. Eh bien, le sommeil de la mort, qu'est-ce que c'est? C'est la concupiscence. C'est la concupiscence qui prévaut. C'est la concupiscence qui est plus forte que la charité. C'est l'assoupissement de l'esprit par rapport à l'éveil des passions et des sens. Vous voyez? Le remède à cela, c'est l'illumination des yeux. Il nous faut demander à Dieu que nos yeux intérieurs soient illuminés. En quoi consiste cette illumination? Eh bien, cette illumination, mes très chers frères, nous en trouvons la doctrine dans l'introït. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, qui craindrai-je? Le Seigneur est le rempart de ma vie, de qui aurais-je peur? Les ennemis qui me persécutent ont été eux-mêmes affaiblis et sont tombés. Qu'une armée campe contre moi, mon cœur ne craindra pas. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, qui craindrai-je? Si le Seigneur illumine nos yeux, et si la charité prévaut et la concupiscence ne prévaut pas, je vous renvoie à ce que nous avons dit les dimanches précédents, alors, mes très chers frères, nos yeux sont illuminés, et véritablement, nous usons de toutes choses, comme n'en usons pas, c'est-à-dire nous usons de toutes choses selon leur nature, c'est-à-dire pour la gloire de Dieu et pour notre sanctification. Alors vous allez dire, quel est le lien avec les souffrances? Eh bien justement, venons-y. Les souffrances, la souffrance est fonction, et c'est là où il y a encore quelque chose de cruel à dire, mais la souffrance, les souffrances que nous... Bien des souffrances, pas toutes certes, mais bien des souffrances subjectives que nous rencontrons dans notre vie, sont fonction de nos ténèbres. Illuminez mes yeux de peur que je ne m'endorme dans le sommeil de la mort, que de peur que mon ennemi ne dise je l'ai vaincu. Notre ennemi, lorsqu'il nous présente les objets de ce monde et que nous en usons selon notre concupiscence, dit je l'ai vaincu. Les souffrances, bien des souffrances, pas toutes, encore une fois, pas toutes, mais bien des souffrances, et bien des souffrances, si j'ose dire, inutiles, contrairement aux autres, bien des souffrances inutiles viennent de notre réticence à nous laisser nos yeux être illuminés par la lumière divine. Bien des souffrances viennent du fait que le Seigneur n'est ni notre lumière, ni notre salut, et que nous avons tout à craindre. Alors vous allez dire, mais je ne crains personne. Nous avons tout à craindre, c'est celui qui est illuminé qui parle. Mais celui qui n'est pas illuminé vit dans ce que l'illuminé craint, c'est-à-dire l'esclavage et l'asservissement aux démons. C'est pour cela, mes très chers frères, que la conviction de saint Paul, qui nous dit « je suis persuadé que les choses, que les souffrances, etc. », la conviction de saint Paul produit l'illumination de l'intelligence. Vous voyez comme tout est lié. Nous croyons fermement ce que nous enseigne saint Paul, et immédiatement le Saint-Esprit illumine notre intelligence. Elle provoque l'illumination de notre intelligence, et cette illumination en acte, c'est la charité. Levez la tête, dit notre Seigneur, car votre rédemption approche. Que votre règne arrive, disons-nous, dans le Pater. L'Esprit et l'Épouse disent dans l'Apocalypse, venez, oui, Seigneur Jésus, venez. C'est cela le cri de celui qui ne craint pas. Celui qui ne craint pas gémit efficacement. Nous gémissons nous aussi, nous qui possédons les prémices de l'Esprit. Nous gémissons en nous-mêmes en attendant l'adoption des fils de Dieu. Ce gémissement n'est pas un gémissement stérile. Ce n'est pas le gémissement de celui qui dit « je n'en peux plus, le bon Dieu est bien méchant ». Je gémis parce que, d'une certaine manière, je sais toute la gloire que la grâce qui est en moi, qui m'a été donnée, représente en germe, et je n'ai qu'une hâte, c'est qu'elle se manifeste. Et en attendant, j'use bien des choses, de telle sorte que, mettant en quelque sorte, usant droitement de la création, je collabore avec la grâce qui est semence de gloire. Comprenez-vous, mes très chers frères? Alors vous allez dire, mais c'est difficile. C'est difficile. C'est pour cela, mes très chers frères, que l'Église nous fait dire aujourd'hui, dans le graduel, Seigneur, pardonnez-nous nos péchés, Et elle nous fait dire à Dieu aussi un peu plus loin, « Assistez-nous, Seigneur, Dieu de notre salut, et pour l'honneur de votre nom, Seigneur, délivrez-nous. » Par nous-mêmes, c'est impossible. Nous aimons trop, par la concupiscence, les choses d'ici-bas. Nous aimons trop les créatures, nous commençons à commencer par nous-mêmes. Alors, que faire, mes très chers frères? Que faire? Il nous faut prier une prière qui est une prière à la fois terrible et une prière nécessaire, puisque c'est l'Église qui nous l'a fait prier. Il nous faut prier cette prière, la prière suivante, et c'est une prière cachée, c'est une prière secrète, d'ailleurs c'est la secrète, c'est la deuxième partie de la secrète. Que nous fait-elle dire à Dieu? Et a te nostras essiam rebeles compele propitius voluntates. Qu'est-ce que ça signifie? Écoutez bien ce que l'Église nous fait dire à Dieu. Et dans votre bonté, propitius, et dans votre bonté, contraignez vers vous nos volontés rebelles. C'est-à-dire que nous demandons à Dieu, c'est très important, parce que où est le libre arbitre? C'est-à-dire le libre arbitre, si j'ose dire, eh bien l'homme y renonce parce qu'il l'utilise mal. Il y renonce pour ne plus vouloir dans sa volonté que la volonté de Dieu même. Et c'est une volonté contraignante. C'est une volonté, alors ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est l'oraison. Etiam et ate nostras etiam rebeles voluntates compele, compele intrare, c'est dans l'évangile. Forcez-les, contraignez-les d'entrer. Et nous disons à Dieu, et c'est une, alors il ne s'agit pas ici, c'est pas une doctrine, la doctrine théologique du libre-arbitre, c'est l'usage du libre-arbitre fait par ceux qui ne veulent pas s'endormir du sommeil de la mort. Nous disons au Seigneur, contraignez vers vous, contraignez à vous notre volonté rebelle. Bien sûr que notre volonté est rebelle, bien sûr que nous ne voulons pas souffrir, bien sûr que nous ne voulons pas avoir la charité, bien sûr que nous favorisons la concupiscence, bien sûr que nous nous contrefichons des gémissements de la création puisque nous voulons mal continuer à mal l'utiliser. Bien sûr, tout cela est vrai, mais Seigneur, contraignez nos volontés rebelles vers vous, athée, athée. Vous vous souvenez, c'est les premiers mots de l'année liturgique. L'année liturgique commence par ces mots athée, dominé. Vers vous, Seigneur, contraignez nos volontés rebelles. Ça ne laisse pas beaucoup d'illusions sur notre collaboration à la grâce, hein, au sens moliniste du terme. Ça dit simplement, ça ne nous laisse aucune illusion sur notre méchanceté, sur la profondeur de la blessure de notre concupiscence. Et nous demandons à Dieu, Seigneur, faites-moi violence. Cette douce violence dont parle Bossuet par rapport à la doctrine orthodoxe du libre-arbitre, bien sûr que nous avons un libre-arbitre, mais ce libre-arbitre est tellement porté au mal qu'il faut que Dieu lui fasse une violence. Mais cette violence, eh bien, nous lui demandons, il ne la fait pas en quelque sorte indépendamment de nous. L'Église aujourd'hui nous la fait demander. Contraignez dans votre bonté, propitius, vous êtes bon Seigneur, contraignez nos volontés rebelles à revenir vers vous. Dans votre bonté, contraignez vers vous nos volontés rebelles. Il nous faut, mes très chers frères, demander à Dieu d'user de violence contre nous qui faisons tellement violence à sa volonté en faisant violence à la raison d'être des choses créées. Entrons avec joie dans cette carrière dans laquelle notre Seigneur Jésus-Christ nous précède. Un auteur nous dit ceci, un soldat a-t-il... Alors vous allez dire, avant d'aller plus loin, je dirais, simplement pour terminer, vous allez dire, oui, mais c'est très difficile, vous êtes là en train de parler de violence faite à nous-mêmes, c'est au-delà de mes forces. Nous ne sommes, premièrement, pas tout seuls, parce que nous vivons quand même 2020 ans après notre Seigneur, donc ça veut dire qu'il y a un certain nombre de gens qui ont usé de violence avant nous. Et ensuite, mes très chers frères, un soldat, nous dit un auteur, un soldat a-t-il bien de la peine à monter à l'assaut après son roi, après les principaux officiers et après toute une armée? Je terminerai par une citation de notre père Saint-Augustin qui dit ceci. Notre Seigneur Jésus-Christ nous a précédés dans cette voie de violence et cette voie de rectification, cette voie du salut qui mène de la souffrance à la gloire. Notre Seigneur nous a précédés, les apôtres nous ont précédés, des hommes faits nous ont précédés, des jeunes gens et des jeunes filles nous ont précédés, il fait allusion aux martyrs, des enfants nous ont précédés. Comment trouver encore de la difficulté dans un chemin que plusieurs nous ont frayé en y marchant avant nous? Mes très chers frères, nous sommes les derniers arrivés, sachant que le plus gros de la troupe céleste est passé déjà, le chemin est tout frayé, nous n'avons qu'à prier de tout notre cœur cette prière, chaque fois que nous sentons de la mauvaise volonté dans notre âme, de tout notre cœur cette prière, mes très chers frères, encore, redisons-la encore une fois, Seigneur, malgré et dans votre bonté, contraignez vers vous nos volontés rebelles, et ainsi votre volonté sera faite. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Ainsi soit-il.